Le journal Claude Bousset.
Les titres du journal, les parlementaires continuent l'étude laborieuse de la loi organisant les élections en RDC. Jusqu'hier, une centaine d'articles ont été abordés, dont ceux ayant trait au débat entre candidat président de la République et sur l'âge du candidat président. Les élections sont irréversibles et rien ne pourrait les empêcher d'avoir lieu. C'est là l'essentiel de ce qu'a déclaré William Swing vendredi à l'issue de sa rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, actuel président de l'Union africaine. Des centaines de tonnes de maïs, riz, arachides pourrissent dans les entrepôts des ports de Bumba dans la province de l'Équateur à cause du manque de transport fluvial. Vous suivrez l'appel du président de la FEC du territoire de Bumba. Bonjour. Plus d'une centaine d'articles du projet de loi électorale, environ la moitié donc, a déjà été adopté par les deux chambres du Parlement. Hier, samedi, parmi les articles adoptés figurent notamment l'âge du candidat, le fait qu'il doit être fait enrôler et le débat contradictoire entre les candidats au présidentiel. Suivez les explications de Jean-Claude Toumba Kamanga.
Le Parlement confie la tâche à la Haute Autorité des médias d'organiser ces débats. Chaque candidat devra intervenir personnellement. Une précision qui a divisé la plénière en deux camps. D'un côté, la majorité des parlementaires, autres que le PPRD, qui tiennent à juger les futurs candidats sur leur capacité de se défendre sur certaines questions liées à la gestion du pays. Et de l'autre, quelques députés proches du PPRD opposés à ce débat. Quant aux conditions d'éligibilité des candidats présidents de la République, l'option a déjà été levée. Le candidat devra avoir la nationalité congolaise d'origine et au moins 30 ans d'âge. Il devra aussi avoir la qualité d'électeur, donc être enrôlé par la commission électorale indépendante. Et puis le candidat paiera la caution de $50 000. Quant aux critères du niveau d'études proposés par les commissions politiques des deux chambres, il a été rejeté en plénière parce que jugé non constitutionnel. À propos des députés nationaux, la loi prévoit 500 sièges pour les députés et 104 pour les sénateurs. Les deux chambres du Parlement espèrent adopter toute la loi avant la fin de la semaine prochaine. Voilà.
Le processus électoral est irréversible. Il n'y a rien donc, même pas les insurrections à l'Est, qui pourraient arrêter les élections en République démocratique du Congo. Déclaration de William Swing, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo. C'était au sortir de son audience vendredi à Brazzaville, auprès du nouveau président de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso. De Brazzaville, une correspondance de Arsène Souverain.
William Swing a informé que des efforts étaient faits pour préparer les élections en RDC. L'enregistrement de 25 millions d'électeurs, un vote massif de 84% pour la Constitution. Je crois qu'on se prépare maintenant à assister la CENI en vue d'un bon déroulement des prochaines élections, a déclaré William Swing vendredi à Brazzaville. Pour le représentant des Nations Unies en RDC, les élections sont irréversibles. Il n'y a rien, y compris les insurgés à l'est du pays, qui pourraient bloquer ou perturber les élections en RDC, a-t-il martelé. Il a aussi souligné d'importants efforts faits par la MONUC et les autorités de la RDC pour contrecarrer l'action des insurgés. Un équipement conséquent et des véhicules ont été réunis au FARDC à l'est du pays. Rappelons que le cours est membre du FIAT depuis que Denis Sassou Nguesso est devenu président de l'Union africaine. Cette organisation a des observateurs militaires à Goma et à Gisenyi, puis sur la frontière RDC-Rwanda. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Okapi.
La police, les leaders des partis politiques et de la société civile ont échangé sur la sécurisation des opérations électorales futures. C'était au cours d'une matinée d'information organisée hier à l'hôtel Memling de Kinshasa par la fondation allemande Konrad Adenauer. Selon l'inspecteur divisionnaire adjoint de la police, M. Isidore Odimola, qui est aussi le coordonnateur technique de sécurisation du processus électoral, au regard du chemin parcouru, la police nationale est capable de remplir sa mission dans les échéances qui approchent. On l'écoute.
Jusqu'ici, la sécurisation des opérations préliminaires, c'est-à-dire l'identification et l'enrôlement des électeurs, le référendum constitutionnel, se sont déroulés sans incident majeur. Et pour les scrutins à venir, la population peut compter certainement sur l'efficacité de la police nationale.
Du côté des partis politiques, tout le monde ne partage pas cet optimisme de l'inspecteur divisionnaire Isidore Odimola quant au rôle de la police nationale dans la bonne sécurisation des élections, dans la mesure où, simplement, cette institution n'a pas encore tous les moyens nécessaires qui doivent lui permettre de réaliser au mieux sa mission. C'est le point de vue de Madame Lusamba. Elle est présidente du Rassemblement des démocrates conciliants, RADECO. Nicole Kudiangela lui a posé la question.
Est-ce que vous pensez que la police jouera vraiment son rôle dans les opérations électorales?
C'est un peu difficile parce que nous voyons quand même qu'avec le budget qu'ils avaient pensé à faire, à mettre en place, n'est pas encore respecté. D'abord, nous avons vu au premier moment, c'était au moins au maximum 30 millions de dollars, mais ils ont reçu que 8 millions de dollars. C'est impossible, ce n'est même pas un tiers de ce qu'ils ont demandé.
C'était là Madame Lusamba, présidente de RADECO. C'est un reportage signé Nicole Kudiangela. Les femmes et filles associées aux groupes armés ne bénéficient pas de tous les avantages qu'offre le Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la CONADER et ses partenaires la semaine qui s'achève au centre d'orientation de Madoula, près de Kisangani, dans la province orientale. L'enquête a porté sur un échantillon de 85 démobilisés, dont 6 femmes. Une initiative du Fonds des Nations Unies pour la femme, d'autres agences des Nations Unies et la CONADER, et cela afin de monter des nouvelles stratégies visant à assurer une visibilité de la femme et faire profiter les filles et femmes associées aux groupes armés de tous les avantages dont elles ont droit, comme l'explique ici Idebald Chinamula, chargée des genres et environnement à la CONADER. Il est au micro de Dorcas Kankou.
Dans le programme d'aider, la femme n'est pas visible. Conscient de cette situation et conformément bien sûr à la résolution 1325, on a pensé qu'il a fallu justement rendre visible la femme et comment il faut l'identifier. Oui, bien sûr, on peut bien les comprendre, le contexte de notre pays, nous Africains aussi, c'est que c'est un domaine traditionnellement masculin. Ce sont les hommes qui prennent les armes, ce sont les hommes qui sont connus comme tels et les femmes apparemment n'apparaissent pas. C'est comme ça que dans la conception du programme, c'est justement ceux-là qui prennent les armes et les hommes qui ont été ciblés en priorité et les critère même d'admission au programme, c'était justement l'échange d'armes pratiquement. Or, les femmes ont joué plusieurs rôles à côté des forces et groupes armés et ont été donc en tant que combattants, mais sous un autre statut, sous plusieurs rôles. Et c'est ça le concept que nous voulons faire passer, que nous appelons femmes associées aux forces et groupes armés, FAFCA, et à intégrer dans les programmes pour qu'elles soient également bénéficiaires. Mais c'est une cible importante qui doit bénéficier de tous les avantages que les programmes offrent à leurs collègues combattants masculins.
C'était la Idebald Chinamula, chargée du programme Hommes-Femmes et Environnement à la CONADER. Il était au micro de Dorcas Kankou. Restons dans les couloirs de la Commission nationale de désarmement et réinsertion pour dire que le coordonnateur national, Daniel Kawata, est à Lubumbashi depuis vendredi. Il va procéder à l'ouverture d'un nouveau site pour démobiliser. Interrogé sur les récentes revendications des démobilisés du centre d'orientation de Kamina qui ont séquestré un agent de la CONADER jeudi dernier, Daniel Kawata a reconnu que l'institution qu'il dirige souffre de la lourdeur administrative. Il est au micro de Paul Mounanga.
Vous savez, par exemple, à Kamina, nous n'avons pas d'infrastructure pour garder l'argent là-bas. Et il n'y a pas de vol aussi régulier. Donc, tout ce temps que ça prend avant d'arriver pour connaître exactement combien de gens vont se faire démobiliser, préparer l'argent, préparer toute la documentation, parce que nous serons contrôlés aussi sur cet argent-là. Et nous devons prendre des dispositions sécuritaires aussi pour transporter cet argent-là. Tout ça, ça prend du temps. Tellement beaucoup de gens traités, ils prennent aussi un peu plus de temps. Normalement, les sites étaient prévus pour rien que les démobiliser. Mais comme vous savez, nous sommes dans un pays où les gens se déplacent avec leur famille. Donc, il y a un problème qui se présente de logistique parce que nous n'avons pas que les démobilisés à traiter. Il y a aussi les membres de famille, ce que nous appelons les dépendants.
Daniel Kawata, coordonnateur national de la CONADER, il était au micro de Paul Mounanga. Le personnel de santé de Matadi décidé à radicaliser la grève pour réclamer le paiement de leurs primes professionnelles au grand désarroi de la population. Ce week-end, on a constaté le mouvement de suspension d'activité dans plus d'un centre hospitalier. Hier, la tension était vive à l'hôpital général de référence de Matadi entre l'autorité municipale et le personnel de la santé qui manifestait. Suivez plutôt ce reportage de Emmanuel Imbanda Lokengalo Chichimbi.
Ambiance chaude ce samedi à l'entrée principale de l'hôpital général de Kinkanda à Matadi. À cette entrée, bordée de rameaux, infirmiers administratifs et autres personnels de santé chantent et dansent autour d'un cercueil d'enfants vides. Il est couvert d'un linceul blanc frappé d'une tête de mort sur deux os croisés dessus. Ces écrits, danger de mort, 6600 vols, prime de risque. Une infirmière s'exprime.
Nous voulons notre l'argent à l'immédiat.
Dans les pavillons, les malades et gardes malades seuls désemparés. Un jeune homme regrette. Ma femme est allée à la consultation prénatale à Kiamvu. À son retour, elle me dit qu'il n'y a pas de consultation. Pourtant, elle est malade.
L'arrivée du maire de la ville de Matadi, suivie d'âpres négociations avec les syndicalistes, débouche sur un accord rejeté par le personnel de santé sur révolte. Pas de prime, pas de travail, chante-t-il. Pour faire face à la situation, le maire de Matadi, Jean-Marc Zidi.
Pour ce qui est de l'intersyndicat, chaque fois qu'elle aura à se réunir quelque part, elle doit requérir l'avis de l'autorité.
Quant au médecin directeur, le docteur Yves Ndembe, il dit vouloir prendre en charge les cas de malades le plus urgent avec les 8 médecins qu'il dispose et les 6 policiers et militaires infirmiers mis à sa disposition. Les autres malades sortiront de l'hôpital. Matadi, Emmanuel Imbanda, Lokengalo Chichimbi, Radio Okapi.
Là, c'était à Matadi, à Boma et à Mwanda. Le personnel de santé a décidé de continuer le service minimum. Au Kasaï oriental, les taximens, les chauffeurs de taxi, se plaignent des nouvelles tracasseries policières depuis que le maire de la ville de Mbujimayi a instauré le système de salongo tous les samedis matins. Les hommes en uniforme exigent de l'argent aux chauffeurs des taxis qui profitent de la matinée afin de renflouer ce qu'ils appellent l'argent de versement qu'ils remettent chaque soir aux propriétaires de véhicules. Ce qui les gêne, les chauffeurs des taxis, c'est que cet argent que les policiers prennent ne va pas dans la caisse de l'État, des précisions avec Nick Mputu.
200 ou 300 francs congolais, c'est la somme qu'exigent les policiers avant de laisser passer les taxis chaque samedi matin en Mbujimayi. Cet argent est remis aux policiers commis à la route pour empêcher la circulation à toute voiture de transport pendant le salongo. C'est là pour respecter la décision du maire de la ville, décision selon laquelle ils doivent rester à la maison chaque samedi de 7h à 11h pour rendre la ville propre. Mais les chauffeurs qui estiment qu'il faut aider la population dans ses déplacements pour multiples raisons se font ainsi rançonner par la police. Ils se plaignent de cette situation et sollicitent l'indulgence de l'autorité pour les épargner des heures rançonnement qui ne profitent pas à l'État. En Mbujimayi, on travaille beaucoup plus le matin et c'est à ces heures-là qu'on a l'argent. Quand on nous demande de ne pas travailler le matin, ça c'est vraiment nous bloquer. On parle toujours de salongo sans pour autant qu'on puisse voir les preuves. Les bers et surtout les policiers, on leur donne 200 francs ou 500 francs congolais avant qu'ils nous libèrent. Si tu ne leur donnes pas cet argent-là, ils vont te bloquer jusqu'à ce que tu vas faire sortir quelque chose. De son côté, le maire de la ville reste catégorique à sa décision. Marcel Innocent Kingwamwana estime que si les conducteurs payent de l'argent, c'est parce qu'ils ne respectent pas ce que les autorités disent. Par ailleurs, la population s'inquiète de cette décision qui l'empêche même de se déplacer pour faire ses travaux de salubrité à son lieu de service. De Mbujimayi, Nikemputu, Radio Okapi.
Province de l'Équateur, à Bumba, cité située à quelques 700 km en amont de Mbandaka, les opérateurs économiques et producteurs sont aux abois et pour cause, les moyens des transports font défaut pour évacuer leurs produits. Au cours de l'actuelle campagne vivrière, nombreux ont stocké des tonnes de produits agricoles mais ne savent comment les exporter. Conséquence, des centaines de tonnes de maïs, d'arachides, de riz, de cossettes, de manioc bandent les entrepôts et artères de la place et ces produits commencent à s'avarier. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Bumba, qui tire la sonnette d'alarme, estime que cela risque de décourager les paysans qui risquent beaucoup de perdre même leurs capitaux. Lui, Endimé, au téléphone avec Paul Richard Malengela.
Nous n'avons jamais connu une année où il n'y a pas de bateau pour l'évacuation de produits. Et les gens vraiment en souffrent et ça peut vraiment beaucoup entamer leur capitaux. Et imaginez-vous quelqu'un qui ne fait que le maïs, qui ne fait que l'arachide, il achète tout l'argent investi dedans et il n'évacue pas. Et il n'y a même pas une probabilité. De l'autre côté, quand tu sais ça, par exemple, nos marchés sont liés à des moments où il y a Kassai qui alimente et qui fait ça à un tel moment. De l'autre côté, c'est l'Équateur qui fait ça. Alors nous, nous préparons en fonction de tout ça. Alors vraiment, nous demandons à notre tutelle, l'État, de voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour aider un peu les commerçants à sortir de ça. Parce qu'après tout, l'État dépend aussi de la de revenus des commerçants. Mais si les commerçants ne tournent pas bien, vous voyez que ça fausse aussi le chiffre d'affaires de l'État. Si, par exemple, l'ONATRA reprenait ses activités, je pense que tous ces problèmes n'allaient pas se poser.
Voilà, c'était là le président de la Fédération des entreprises du Congo de Bumba dans la province de l'Équateur. Monsieur Louis Ndimé était au téléphone avec Paul Richard Malengela. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier bulletin dominical de ce matin. Les parlementaires continuent l'étude laborieuse de la loi organisant les élections en RDC. Les élections sont irréversibles et rien ne pourrait les empêcher, même pas l'insurrection à l'est du pays et des centaines de tonnes de maïs des riz, arachides, des maniocs pourrissent dans les entrepôts de port de Bumba. Ce sont là les grandes lignes, les grands titres de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée dominicale à toutes et à tous. Okapi. Okapi.